Alors voilà,
bonjour à ceux que je n'aurais pas salué. Je crois que j'ai salué tout le monde en fait. Ah, peut-être une personne, non. Alors, ce matin, vu qu'on est dans l'église, je vais parler de l'église. Hein, c'est un bon endroit pour parler de l'église à l'église, non? Et on va prendre le premier texte dans le Nouveau Testament qui nous parle de l'Église. Ce texte se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et en fait, c'est Jésus qui, dans le Nouveau Testament, nous parle en premier de l'Église. Et c'est un texte quand même assez fondateur. Et c'est un texte qui a quelque chose à nous dire encore aujourd'hui en ce qui concerne l'Église. Donc, Matthieu 16, je vais lire à partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dans cette histoire, nous voyons que Jésus et ses disciples sont en marche, ils sont dans le territoire de Césarée de Philippe et ils passent d'un village à un autre. Et puis, à un moment donné, Jésus prend ses disciples à part. Ça, on le voit pas directement ici dans l'évangile de Matthieu, mais on le voit dans l'évangile de Luc, passage parallèle en fait, hein, simplement. Il prend ses disciples à part et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, on aime bien des fois être avec nos amis, avec nos proches, prendre des moments. On a besoin aussi de confidents. On a besoin d'avoir une oreille attentive où on a des fois envie de partager quelque chose qui est sur notre cœur, là, qui bouillonne. Et Jésus, il avait une question qui était là, qui était importante, qui bouillonnait au fond de son cœur. Il avait peut-être autre chose en tête aussi encore par rapport à ses disciples. Et il prend un temps à part avec ses disciples. Et il va poser une question. Une question personnelle. Il voulait sonder les cœurs de ses amis. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Moi, le Fils de l'homme. Hein? Ce titre, on le retrouve assez souvent dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle de son incarnation, c'est Jésus qui parle de sa venue sur cette terre. Il était dans la gloire, il était le maître des cieux, de l'univers, de toute la terre. Et il s'est dépouillé, il s'est fait simple homme pour venir à notre rencontre. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est un peu une question, pas pour savoir quelle renommée il a, parce que je pense que Jésus, il n'avait pas besoin de ça. Hein? Aujourd'hui, on voit des fois les hommes politiques qui font des sondages pour savoir où ils en sont. Alors, je ne sais pas si vous avez vu François Hollande, ça ne vole pas très haut ces derniers jours. Je crois qu'il n'y a pas eu un président français qui est aussi bas que ça. Et pourtant, on ne l'a pas destitué. À un moment donné, il faudrait quand même des lois. Enfin, je ne veux pas faire de la politique ici, mais je me dis que quand on arrive aussi bas qu'un François Hollande, il faudrait pouvoir vraiment mettre à la porte ce genre de personnage. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. On peut critiquer la politique de nos voisins. Je ne dis pas qu'on est meilleur ici en Suisse, hein, je vous rassure. J'ai rien contre la France. Jésus n'avait pas besoin de savoir la notoriété qui était la sienne, mais il se posait quand même la question, comment est-ce que les gens le voyaient? Et puis les disciples vont répondre. Certains te voient comme Jean-Baptiste, d'autres comme Élie, d'autres comme Jérémie, ou l'un des prophètes. Et puis, après, il va dire aux disciples, mais vous qui m'êtes proche, vous qui me connaissez, vous qui partagez le chemin avec moi, vous qui dormez à mes côtés, vous qui connaissez mes joies et mes malheurs, vous qui avez entendu mon enseignement, vous, qui dites-vous que je suis? Et on sait qui va répondre en premier, hein, c'est Simon-Pierre. Et il va dire, on connaît ce passage, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Tu es le Christ, hein, ou dit en d'autres termes, tu es le Messie, tu es l'envoyé, tu es celui qui a l'onction, tu es celui qu'on attendait. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pour nous, qui est Jésus? Est-ce que Jésus est aussi un simple prophète, ou un grand mystique, ou un homme pieux, ou un utopiste, peut-être, hein? Des fois, il y a des chrétiens qui voient, ça arrive, hein? Souvent avec qui vous allez discuter, comment tu vois Jésus, qui était Jésus. Certains vont partir dans des théories assez étonnantes, hein? Peut-être qu'ils vont le voir comme un simple faiseur de miracles, ou un utopiste même. Et il y a quand même beaucoup de choses qui vont dépendre de la manière dont on voit Jésus. Et Pierre, parce que Pierre, il est en intimité avec son Dieu, parce que Pierre a fait des choix dans sa vie aussi, il a centré sa vie sur le Seigneur, alors Pierre va pouvoir répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors, cette révélation, elle n'est pas venue comme ça, je pense, du jour au lendemain, mais il y a eu tout un cheminement pour Pierre, parce que c'était quand même assez révolutionnaire. Aujourd'hui, pour nous, c'est facile d'entendre ça. Mais si on se met à la place de Pierre, une telle déclaration, c'était quand même une déclaration de foi énorme, hein? Un simple charpentier, la fils de charpentier lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est celui qu'on attendait, qui est celui dont ces prophéties incroyables nous annoncent sa venue. C'est lui, vraiment, t'es sûr? Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient se questionner si véritablement Jésus était le Messie. Et peut-être il y a même des disciples qui devaient se dire, ouais, ben, la Pierre, il s'avance un peu. Non, on ne sait pas, mais pourquoi Pierre? Attends, mais calme-toi, là, t'es un peu euphorique. Vraiment, t'es sûr de ce que tu dis? Alors, Pierre avait vu les miracles, Pierre avait vu les prodiges, ou Pierre avait vu, avait écouté la sagesse de Dieu, l'enseignement du Christ. Mais sur quoi est-ce qu'il a pu baser cette déclaration, cette conviction? Alors, si on remonte au début de l'histoire de Pierre, quand il a rencontré la première fois Jésus, on trouve déjà une réponse quelque part. Il y a déjà quelque chose qui a préparé le terrain pour que Pierre reconnaisse que Jésus soit le Messie. On dit, hein, la première impression, elle est importante. Quand on croise quelqu'un la première fois, elle nous laisse une impression, positive ou négative. Et on dit, hein, dans le marketing, si la première impression, si elle est perdue, on ne la retrouve pas. Hein? Bon, Jésus n'a pas besoin de se vendre, mais quand même, la première impression, elle est importante. Alors, quel était le premier sentiment de Pierre quand il a rencontré Jésus? On le trouve dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 1er, je reviendrai ensuite sur l'évangile de Matthieu. Jean 1, verset 40. Jean 1, verset 40. Et là, il nous est parlé d'André, du frère du Seigneur. André qui avait été lui-même un des disciples de Jean-Baptiste. Et donc, je continue l'histoire là. Dans le verset 40. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux disciples en fait de Jean-Baptiste, qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Il le conduisit vers Jésus. D'ailleurs, Jésus l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Nous avons trouvé le Messie, André. Hein? Alors André, il est aussi euphorique là. Il a autant de conviction, de zèle que son frère quelque part. Oh, on a trouvé le Messie. Ça devait être quand même extraordinaire. Extraordinaire. Tout d'un coup, au fil de nos journées, tout d'un coup, on rencontre le Messie. Hein, on peut s'imaginer, pour André, ça doit être quelque chose de fort aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que André ait cette conviction? André, qui était un des disciples de Jean-Baptiste, était avec Jean-Baptiste que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous connaissez l'histoire. Le Saint-Esprit est descendu à baptiser Jésus, et il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel, et cette voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, hein, objet de toute mon affection, écoutez-le. Donc André, il avait vécu ce moment-là, qui a dû être un moment sur le plan spirituel quand même fort. Tout d'un coup, vous entendez une voix qui vient du ciel, hein, puis tout le monde l'entend. Ceux qui étaient là, ils ont dû entendre la voix qui venait du ciel. Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. Hein. Le Seigneur peut nous parler, hein, même on a l'impression qu'il va nous parler de manière audible, mais quand vraiment c'est audible et que tous les gens qui sont là autour entendent cette voix et vivent ce moment-là, le baptême du Saint-Esprit pour le Seigneur, mais il devait y avoir une présence de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Et André, il en était encore tout retourné, il avait vécu ce moment-là. Le Messie est là, c'est extraordinaire. On a entendu une voix qui nous disait du ciel: voici mon fils bien-aimé. On a vécu, mais Pierre, si tu savais le moment qu'on a vécu dans la présence de Dieu, là, c'était quelque chose de tellement précieux. On n'avait pas envie que ça s'arrête. On n'avait pas envie de partir. On peut s'imaginer, hein, de quel état devait être André. En tout cas, dès qu'il croise son frère Simon, il lui dit: nous avons rencontré, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il va le conduire vers Jésus. Et quand Jésus rencontre Pierre, il lui donne un nouveau nom. Tu t'appelles Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Et ce nouveau nom va avoir une signification pour la vie de Pierre, hein, pour la vie de Simon. Ce nom de Pierre va avoir une nouvelle signification pour son identité. Parce qu'au travers d'un nom, ça donne quand même une petite idée, ça peut donner une petite idée de l'identité qui est la nôtre. Et d'autant plus si ce nom vient de Jésus. Hein. Si ce nom qui était donné à Simon vient de Jésus, c'est qu'il y avait une pensée, il y avait un projet, il y avait une idée divine derrière ce nom. C'était pas juste pour faire joaillier sur le permis de conduire ou je sais pas où, hein, un nom à rallonge là sur la carte d'identité. Non, c'est qu'il y avait un but, il y avait un projet du Seigneur. Et ce projet du Seigneur, en fait, il va commencer à prendre forme justement dans le moment que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, je reviens sur ce texte. Matthieu 16. Ce moment où Pierre a cette conviction, a cette révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole au verset 17, lui dit, Matthieu 16, 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te tourne une page en plus, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, hein, si on est plus proche ici de l'hébreu, sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Là, le nom de Pierre commence à prendre forme. ce nom qui a été donné dès le moment que Pierre a pu rencontrer Jésus, tout à coup, il commence à prendre une signification. Peut-être qu'on peut s'imaginer jusque-là, Simon se dire, mais pourquoi il m'a appelé Pierre, hein? Il m'a appelé Pierre, là, mais bon, d'accord, c'est un nouveau nom, j'aime. Ouais, c'est joli, ça sonne bien, je m'appelle Pierre. Mais pourquoi il m'a appelé Pierre? Je pense qu'il y avait ce questionnement. Des fois, le Seigneur, il nous parle aussi, puis on ne comprend pas. Des fois, il peut nous parler d'une manière prophétique, et c'est que beaucoup plus tard qu'on va comprendre la signification de la pensée du Seigneur. Et je pense que pour Simon, c'était quelque chose un peu de cet ordre-là. Il était un peu dans l'inconnu de se dire, mais pourquoi j'ai ce nouveau prénom? Moi, j'aimais bien Simon. Hein? Ou bien il était peut-être fier. Ah, moi, Jésus m'a donné un nouveau prénom. Mais il n'en savait pas forcément la raison. On peut s'imaginer plein de choses. Mais là, la signification de ce prénom commençait à prendre forme. Tu es Pierre et je te le dis, hein, sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc on trouve ici la première fois, dans l'évangile de Matthieu, le terme église. On ne pourra pas le trouver avant dans le Nouveau Testament. On ne pourra pas le trouver non plus dans l'Ancien Testament, hein, ou indirectement. On ne trouve pas le mot « église ». Bon, c'est un mot qui vient du grec en plus, « ecclésia », hein, appelé « horde ». Alors, on peut faire un lien dans l'hébreu aussi avec l'assemblée dans le désert qui était appelée « horde ». Alors, voilà, on peut faire ce lien-là. Mais le mot « église » vraiment en tant que tel, La première fois qu'on le trouve, ben c'est dans l'évangile de Matthieu et c'est dans ce passage-là. « Je bâtirai mon église. » Et pourquoi Pierre a eu cette révélation? Mais moi, je pense que Pierre a eu cette révélation pas parce qu'il était faire de longues années d'études en théologie, j'ai absolument rien à contre, hein, mais parce qu'il était proche du Seigneur. C'était la proximité avec Jésus qui a amené cette forte conviction contre, quelque part, toute sagesse humaine de dire « tu es le Christ ». Et c'est parce que Pierre avait cette proximité avec Jésus que Jésus lui a fait la promesse que tu es Pierre et sur cette pierre, sur ce roc, sur cette conviction, sur cette proximité que tu as avec moi, sur ce lien fort que tu as avec moi, je bâtirai mon église. L'église se trouve donc sur un roc invisible. Mais la révélation et la communion avec le Saint-Esprit va rendre l'église visible. Amen. Amen. Hein? L'église est invisible au premier. Ce roc, il n'y a personne qui peut dire « moi j'ai vu ce roc ». Mais ce roc qui est cette communion avec Dieu, qui est cette confirmation dans notre cœur que Jésus est bel et bien le Messie, cette foi qui va se mettre en action, va rendre l'Église visible. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'Église visible et l'Église invisible. C'est une terminologie qui ne vous sont pas inconnues. Et puis j'ai vu un gag là dernièrement, qui nous était présenté par un pasteur, et c'était un gag de Mix et Remix. C'est un humoriste qui fait des petits dessins, et puis il est demandé sur plein de thèmes. Et puis là, une fois, il était demandé pour, je pense, pour un thème sur l'Église, et puis je trouvais que son humour était pas mal. Alors on voit dans son dessin, il y a un pasteur avec sa robe pastorale, là, et puis il y a deux paroissiens dans son dessin, tout simplement, hein, c'est des dessins tout simples. Et puis le pasteur qui demande à ces deux paroissiens, « Dis donc, on ne vous voit pas souvent à l'Église, vous ?» Et les deux personnes de répondre, « Nous faisons partie de l'Église invisible. » Bon, hein, j'espère que vous ne retiendrez pas la réponse. Hein. Alors, je me suis posé la question, y a-t-il deux types de membres dans nos églises? Les membres de l'église visible et les membres de l'église invisible. Hein? Ou bien, pour continuer cette réflexion, de manière sarcastique, est-ce qu'on devrait faire dans nos listes de membres d'église deux colonnes? Les membres visibles et les membres invisibles. Et où est-ce que tu veux, où est ta place? Parmi les membres visibles ou parmi les membres invisibles de l'Église? Bonne question, hein? Je n'ai pas encore vu une liste comme ça d'Église, mais de membres, mais pourquoi pas? Alors, pour que on puisse être des membres visibles, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il nous faut en fait être rempli du Saint-Esprit, il nous faut être en communion avec Jésus-Christ comme Pierre, il nous faut être proche du Seigneur. Et c'est cette proximité avec Dieu qui va rendre l'Église visible. Parce que si nous sommes proches du Seigneur, ben, on va être un peu comme André, là, qui était tout feu, tout flamme quand il avait rencontré Jésus. Mais viens, j'ai rencontré le Messie. C'est pas possible si on est proche du Seigneur qu'on n'ait pas à cœur aussi son Église. Et si on est proche du Seigneur, on aura à cœur aussi ben, nos frères et nos sœurs, la communion fraternelle, hein, qui est aussi un des fondements de l'Église. Parce que, petite question, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Alors si je vous posais la question, je pense qu'on aurait plein d'excellentes réflexions sur le sujet. Peut-être qu'on partirait dans un énorme débat théologique et puis à midi et demi, on n'aurait pas encore fini. Il y en a qui commenceraient à dormir ou ils auraient été servir d'un café parce que le sujet commencerait un petit peu à les barber, ou d'autres seraient complètement flammés et puis ils vont interrompre leurs voisins sur le sujet ou que sais-je. Il y aurait les plus charismatiques qui diraient gloire à Dieu en écho à chacune des interventions. Mais l'Église, c'est quoi? Alors moi, j'ai une petite définition toute simple, sans que ce soit de la grande théologie. L'Église, ben, c'est simplement une réunion de frères et de sœurs. Parce que si les gens ne se réunissent pas, ben, il n'y a plus d'Église. Vous êtes d'accord? C'est comme on dit en maths, hein, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. L'Église, à la base, ce n'est pas simplement l'Église invisible. Mais c'est l'Église visible, et pour que l'Église puisse être visible, eh ben, il faut que les frères et les sœurs se réunissent. Parce que si on ne se réunit pas, ben, on n'est plus vraiment l'Église. Et puis, ben, des fois, moi j'ai entendu une théologie qui disait, mais dès qu'on est deux ou trois, on est l'Église. Hein? Alors oui, Jésus, il a fait la promesse, là où deux ou trois seraient assemblés, je serai au milieu de vous. Pas besoin d'être un grand nombre pour que Jésus soit là. Mais l'Église, ce n'est pas seulement deux ou trois personnes. Il ne faut pas qu'on se donne ça comme but le dimanche matin. Ah, bah deux ou trois personnes, c'est bon, ils sont assez, je n'ai pas besoin d'y aller, l'Église est déjà visible. Hein? Moi, je fais partie de l'Église invisible ce dimanche matin. Non. Pour que l'Église soit, eh ben, il faut simplement que les gens se rencontrent et puis viennent et vivre un culte, une adoration à leur Dieu, partager le moment de la Sainte Cène, partager aussi la parole de Dieu, partager la prière, parce que la prière, là aussi, c'est un des fondements de la vie chrétienne, et la prière nous encourage et nous fortifie. Et le point de départ du ministère de Jésus se trouve dans le Jourdain, quand il a été baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est le départ du ministère de Jésus-Christ. Jusque-là, jusqu'à avant, en fait, Jésus, il était très discret. On a très peu de témoignages de son enfance, on en a quelques-uns, mais on n'a pas grand-chose. Mais le véritable démarrage de son ministère à Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit au Jourdain. Et le démarrage de l'Église, c'est quoi? C'est la Pentecôte aussi. C'est quand les disciples du Seigneur, à leur tour, sont baptisés par l'onction du Saint-Esprit. Alors, ce matin, je ne vais pas partir dans un enseignement par rapport à ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Et puis, je pense que ça ne sert à rien non plus d'être hyper strict sur le sujet, parce qu'on aura différentes tendances. Et puis, peut-être on va se bloquer mutuellement pour rien du tout. Ce qui est important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ce qui est important, c'est de chercher cette communion avec le Seigneur. Et c'est que notre couple puisse déborder. Parce que si l'Église a traversé 2000 ans d'histoire, c'est bien que le Saint-Esprit était là. C'est bien qu'il y a quelque chose qui se vivait. Autrement, je crois que l'Église aujourd'hui ne serait plus. Et si on veut un futur pour l'Église, eh bien, il faut aussi que nous recherchions la puissance du Saint-Esprit. Il faut aussi que nous puissions être des proches de Jésus, afin que sa gloire se manifeste au travers de nous. Et comment chercher la présence du Saint-Esprit? Par la prière, tout simplement. Il nous a dit dans Actes 1, verset 14, que les disciples persévéraient dans la prière. Et je crois que c'est vraiment une des clés. Alors, bon, c'est facile le dimanche matin de venir vous partager là-dessus. Hein. Persévérer dans la prière. Mais ça doit faire écho aussi dans mon propre cœur. Hein. Je peux me mettre un miroir là et puis, Alexandre, persévère dans la prière. Parce que c'est un défi. Mais je pense que c'est vraiment une clé pour que l'onction du Saint-Esprit puisse encore venir dans nos vies, que l'onction du Saint-Esprit puisse venir dans l'Église et que l'Église puisse être rendue visible. Parce que sans la présence du Saint-Esprit, ben, l'Église est peu visible. On a besoin de cette communion avec Dieu pour que les choses bougent, pour que son royaume avance, pour que sa gloire vienne, pour que nous puissions être libres en Jésus-Christ et que d'autres personnes puissent encore goûter de cette liberté dans le Seigneur. Amen. Donc soyons des chrétiens visibles par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Amen.